Vivre FM
Podcast. Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Recherche et Partage, une émission proposée plus que jamais en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Je dis plus que jamais parce qu'aujourd'hui, on va carrément revenir sur la rencontre FIRA 2015 intitulée « Handicap, recherche et citoyenneté ». Handicap, recherche et citoyenneté, prenez les trois, mélangez le tout et vous obtenez une rencontre passionnante qui a eu lieu jeudi 19 mars à l'auditorium du Crédit Coopératif, un des partenaires de la FIRA d'ailleurs, on peut le saluer au passage. Une rencontre en trois temps, d'abord un échange riche entre Axel Kahn, président de la FIRA, et Jean-Claude Amezen, président d'honneur du comité éthique et scientifique de la FIRA. Des témoignages ensuite, celui de Christelle Prado, rapporteur d'un avis au Conseil économique, social et environnemental sur comment mieux accompagner et inclure les personnes handicapées. Une table ronde a aussi eu lieu durant cette rencontre sur les moyens concrets que la FIRA met en place pour promouvoir la recherche appliquée et diffuser les résultats de ces recherches. Des porteurs de projets étaient invités et sont venus présenter leurs projets. Si vous avez loupé la rencontre, la deuxième rencontre de la FIRA, Handicap, Recherche et Citoyenneté, eh bien aujourd'hui c'est séance de rattrapage sur Vivre FM. Et avant d'oublier, je remercie Pauline Rimbourg de la FIRA qui nous a aidé à monter cette émission dans les temps. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve tout de suite et pour une petite heure dans Recherche et Partage. La FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, a pour vocation de favoriser la recherche pour élaborer et mettre en œuvre des réponses innovantes et adaptées aux problématiques des personnes handicapées. La FIRA contribue aussi à la reconnaissance de la recherche appliquée en valorisant et en diffusant les bonnes pratiques qui existent en France et à l'international, grâce notamment à un très documenté centre ressources accessible en ligne. Donc la FIRA finance des projets, développe des coopérations et organise des rencontres comme celle qui a eu lieu le 19 mars et qui a commencé par les interventions remarquées d'Axel Kahn, président de la FIRA, et de Jean-Claude Amezen, président d'honneur du comité éthique et scientifique de la FIRA. Et je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de l'intervention d'Axel Kahn.
À travers les travaux et réflexions du comité scientifique et éthique, et qu'une démarche similaire à celle de la FIRA a peu d'équivalent dans le monde, et que partout dans le monde, lorsque l'équivalent n'en existe pas, il nous revient que ce que nous faisons est extrêmement original, extrêmement important et mériterait, si on le pouvait, d'être développé. En effet, les recherches qui aujourd'hui sont le plus actives, ce sont les recherches pour détecter précocement les causes génétiques ou autres, ou virales ou autres, ou accidentelles, et les éviter des désordres entraînant un handicap. C'est également tous les efforts pour traiter ces handicaps. C'est également des efforts extrêmement importants dans le domaine des déficits sensoriels, des déficits moteurs. La directrice générale du Crédit Coopératif y a fait allusion. Cette extraordinaire progression de la micro-robotique, de l'électronique, de l'interface entre la micro-robotique et le cerveau, qui va sans doute potentiellement transformer l'apport, l'approche des handicaps. Cela étant dit, en vérité, dans le domaine du handicap mental, mais même de tous les autres, quels que soient les progrès, il reste des gens qui vivent avec un handicap résiduel, qui sont des citoyens, qui doivent accéder à tous les attributs de cette citoyenneté et qui rencontrent des difficultés pour ce faire. La recherche dont l'objectif est de les aider avec ce handicap qu'ils conservent à surmonter ces difficultés est un créneau extrêmement original qui est peu pris en compte, extraordinairement peu pris en compte. Et pourtant, dans le meilleur des mondes, en étant le plus optimiste possible, il persistera demain des gens qui s'endormiront avec un handicap, qui se réveilleront avec un handicap et qui, entre leur réveil et leur sommeil, malgré ce handicap, devront être au mieux des citoyens à part entière. Il faut absolument les aider.
Est-ce que, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, on a des axes spécifiques de recherche qui sont étudiés par la FIRA? Vous avez parlé à l'instant des énormes besoins, puisque 85% des personnes handicapées vivent effectivement en général à la maison, souvent chez des proches. Est-ce que dans ce domaine, par exemple, de la domotique, précisément, la FIRA est active?
Je vais vous donner des exemples. Ils sont très nombreux, donc, mais je peux les énumérer, des exemples qui m'ont frappé. Peut-être qu'un jour, les dispositifs photosensibles permettront aux malvoyants, aux non-voyants, de voir. Ils ne verront pas aussi bien que quelqu'un qui dispose de l'intégralité de son équipement sensoriel depuis la naissance. Un des problèmes qui se pose chez les non-voyants, les malvoyants, c'est... Voilà, un de nos collègues qui nous rejoint dans
Bachir
cette situation.
Bachir Kéroumi qui arrive.
Absolument. Un des problèmes qui se pose, avec l'extraordinaire capacité de reproduction d'images mentales, auxquelles ils ont accès par le son, par le discours, par le toucher, c'est notamment lorsqu'il s'agit de la description d'une œuvre d'art, mais également simplement d'un paysage, l'entente d'un cours de géographie, d'arriver à appréhender le caractère tridimensionnel de cet espace. C'est très difficile pour quelqu'un qui est non-voyant depuis la naissance. L'une des recherches que nous avons financées consiste à étudier les meilleurs moyens pour permettre aux non-voyants de naissance de reconstruire cette dimension tridimensionnelle de l'espace, en particulier de l'espace géographique, à partir de tous les dispositifs, à partir de toutes les possibilités de l'imprimante tridimensionnelle. On voit très bien que c'est au cœur de ce que je viens de dire. La personne est là avec son handicap, on ne peut pas s'en satisfaire et on essaye de trouver quelque chose. Il persistera des enfants et des adultes qui ont un syndrome invasif du développement, les différentes formes d'autisme. Et en dehors de toutes les recherches sur les méthodes, les approches thérapeutiques, parfois dans une atmosphère polémique, il est certain qu'une attention au cadre de vie joue un rôle fondamental pour arriver à desserrer l'étreinte qui enferme ses enfants ou ses adultes en eux-mêmes. Et en particulier, une question s'est posée: quelles seraient les spécifications dans la conception des logis pour permettre à une personne souffrant de ces troubles de se sentir mieux, d'avoir plus d'ouverture, d'être plus accessible? Et ça, c'est une recherche que nous menons avec une école et des concepteurs en architecture.
Écoutons maintenant un extrait de l'intervention de Jean-Claude Ameisen, président d'honneur du comité éthique et scientifique de la FIRA.
Je crois qu'il y a beaucoup de points, comme le disait Axel Kahn, qui font l'originalité de la FIRA et qui font que, ne serait-ce que son fonctionnement est passionnant. Il y a son caractère transdisciplinaire, il y a son caractère international. Le comité scientifique et le comité éthique sont composés de membres qui viennent de différents pays, mêlent des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne sont pas ou qui sont moins en situation de handicap. Donc c'est cette ouverture qui fait une des originalités de la réflexion. Et la deuxième, en effet, Axel Kahn mentionnait la loi de 2005, la convention de décembre 2006 de l'ONU ajoute, que la France a ratifié, ajoute une dimension qui est importante, qui est complémentaire et qui est que, au fond, un handicap provient autant du problème physiologique que vit la personne que des obstacles que la société met à son accès à ses droits fondamentaux. Et donc, ce qu'il y a de très original dans la démarche de la FIRA, c'est que la recherche et l'application de la recherche a comme but l'appropriation, le développement de l'autonomie de la personne et son accès, ou l'accès de ces personnes à leurs droits fondamentaux. Et donc c'est un des, moi c'est le seul cas que je connaisse, c'est la seule instance que je connaisse, dans lequel une démarche scientifique de recherche appliquée est mise au service, non pas de l'invention d'une application particulière, aussi performante soit-elle, mais au service d'un élargissement de l'accès aux droits des personnes. Le deuxième but, c'est que cette expérience, une fois qu'elle réussit, soit transmissible et communicable. Et donc, il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect pédagogique. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je reviens, les projets de la FIRA sont des projets qui associent à part égale des associations de personnes handicapées et des universitaires ou des chercheurs. Et donc, c'est pas des associations de personnes handicapées qui assistent des chercheurs, ce sont des projets qui sont conçus en partenariat. Et donc, il y a une possibilité pour les personnes de s'approprier les résultats de cette recherche et donc de les transmettre en tant que pairs à d'autres personnes. Donc, je crois que cette vertu pédagogique qui mériterait d'être démultipliée, hein, parce que si c'est 3 projets qui vont diffuser leurs résultats, ou si c'est 10 projets ou 30 projets qui vont diffuser leurs résultats, ça fait une différence. Mais je crois que cet ancrage dans la citoyenneté, l'autonomie, l'accès aux droits fondamentaux fait toute l'originalité de la démarche. Et puis le fait, ce que Axel Kahn mentionnait, qu'il ne s'agit pas d'une vision ou d'un abord du handicap dans sa dimension médicale, qui est très importante, mais dans sa dimension humaine, de citoyenneté, d'autonomie et d'accès aux droits.
Un outil pédagogique, en fait, la FIRA propose, vous le disiez à l'instant, à la valeur d'exemple, c'est le cas de tous les projets. Vous voudriez vraiment que ça serve d'exemple à d'autres, et pour de la recherche et à d'autres organismes?
C'est, si vous voulez, chaque fois qu'un verrou saute, chaque fois qu'un seuil est franchi dans l'accès aux droits, dans l'exercice de l'autonomie, eh bien, ça veut dire que à partir d'un exemple local où cette recherche a réussi, ça doit pouvoir diffuser. Et ça doit pouvoir diffuser dans le monde. Mais je pense, j'ai toujours pensé que, et Axel Kahn aussi, que cette ouverture sur le monde pouvait bénéficier aussi en retour à notre pays. Notre pays est très en retard par rapport à beaucoup de pays européens et non européens dans l'accès à la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, ce qui se découvre avec l'aide de la France dans le monde de nouveau peut revenir en tant qu'exemple et nous montrer, indépendamment des expériences qui vont être réussies en France, ce que nous pouvons changer et ce que nous pouvons faire. Donc je crois que cette vertu pédagogique, ou ce pari pédagogique, est essentiel. La recherche comme un moyen non seulement de résoudre un problème là où il se pose, mais de diffuser largement en montrant que des solutions sont possibles et sont applicables ailleurs.
Axel Kahn, un mot peut-être sur cette valeur d'exemplarité de la FIRA, cette incitation justement à amener d'autres acteurs à faire le même type de recherche, à remettre sur le devant de la scène la recherche appliquée.
La valeur d'exemplarité de la FIRA au départ est beaucoup plus large que cela. C'est l'évidence, voire même la centralité dans un projet républicain, de la solidarité. C'est l'idée que rien ne sert en réalité, et on ne pourrait pas généralement parvenir à justifier la politique d'un développement économique important d'une nation qui s'en est donné les moyens, si parallèlement elle ne s'était pas donné également les moyens d'utiliser une partie des possibilités financières et techniques ainsi dégagées pour aider ceux de ces citoyens qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire que ce qui motive au départ la FIRA, c'est vraiment une conception républicaine solidaire.
Et on se retrouve tout de suite après un peu de musique sur Vivre FM pour continuer à parler de cette rencontre handicap, recherche et citoyenneté.
Jusqu'à midi, Recherche et Partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage pour vous parler du deuxième temps fort de la rencontre FIRA Handicap, Recherche et Citoyenneté, avec l'intervention de témoins actifs qui ont étudié, analysé les besoins, les attentes des personnes handicapées et qui sont venus nous faire part lors de cette rencontre du résultat de leur recherche. On va commencer par écouter un extrait de Christelle Prado, présidente de l'UNAPI et rapporteure d'un avis au Conseil économique, social et environnemental sur comment mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap.
Quels sont pour vous les enjeux de cet avis? Qu'est-ce que vous en attendez et quelles sont les préconisations aussi que vous avez faites dans cet avis?
Pour redonner, bonjour à toutes et à tous. Pour redonner le cadre de la vie, il a été rendu parce que le Premier ministre avait saisi la troisième chambre constitutionnelle pour répondre à l'enjeu de la conférence nationale du handicap. Et alors, le Premier ministre n'a pas saisi ses œufs comme ça, tout seul, sans qu'il y ait des petites mains avant, dont certaines sont dans la salle, les pousser un peu pour s'y intéresser. Voilà. L'enjeu était de faire réfléchir l'ensemble de la société civile organisée sur des préconisations qui permettraient effectivement d'appuyer les politiques inclusives de notre pays, et que la question, les problématiques rencontrées par les personnes en situation de handicap, je dirais les problématiques d'exclusion, hein, au sens large du terme, rencontrées par les personnes en situation de handicap, puissent venir, par les préconisations qu'on allait faire, éclairer d'autres champs de la fragilité. Bon, ça c'était l'objectif, et là où on a été bon, si je puis dire, c'est que nous avons réussi à faire des préconisations avec l'ensemble de mes collègues qui réunissent, non pas simplement sur l'intention, mais sur le comment faire, des organisations aussi éloignées les unes des autres que peuvent l'être, comme je les cite souvent, le MEDEF et la CGT. Et ces préconisations ont reçu le vote de la Chambre à l'unanimité. Là où est notre déception, c'est que les cabinets forcément ministériels en ont été destinataires, et Matignon en particulier, que nous n'avons pas vu de préconisations retenues pour la CNH, et que donc, en tant que rapporteur de cet avis, je reprends mon bâton de pèlerin. J'étais au cabinet de Madame Neuville hier après-midi sur le sujet, et je vais aller à l'Élysée, alors toujours pas Matignon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, à l'Élysée la semaine prochaine pour porter justement à la connaissance de ceux qui auraient pu passer à côté les préconisations qui réunissent l'ensemble de la société civile organisée. Et je trouve dommage qu'à partir du moment où des gens si différents arrivent à se mettre d'accord sur des préconisations, on n'en tienne pas compte. Enfin, ça n'est pas un très bon signe vis-à-vis des acteurs de la société que nous sommes, et surtout dans une démocratie. Alors, ce que nous avons fait, nous sommes partis d'un constat, c'est surtout que notre pays est dans une espèce d'obscurantisme vis-à-vis de la connaissance de ce qui pourrait être, de ce que pourraient être les personnes en situation de handicap. On n'a pas de chiffres, on a des chiffres très approximatifs, aussi bien au niveau de l'épidémiologie que au niveau même de la recherche fondamentale. Enfin, on n'a pratiquement rien. Et en tout cas, ce qu'on peut avoir, et par exemple les travaux que la FIRA peut mener, ne sont valorisés que par la FIRA. Enfin, je veux dire, voilà, à chaque fois, ce sont des acteurs qui sont motivés, des personnes qui s'engagent tout ensemble, mais qui restent dans leur coin au total, parce que il n'y a pas, à un moment donné, la volonté d'une nation de s'en emparer pour dire « c'est une chance pour tous ». Et c'est là où au Conseil économique, nous sommes un peu embêtés. Désolée, je suis bavarde, hein, mais c'est parce que je voulais replacer le contexte, parce que le contexte a son importance. Les personnes en situation de handicap, comme le disait très bien Axel Kahn, et on a réussi à faire changer l'état d'esprit de nos collègues du Conseil économique, ne serait-ce que par les auditions. Je leur présente la liste des personnes que nous proposions pour des auditions. Et mes collègues me disent « Mais attends, mais t'invites pas de personnes handicapées ?» Ben, je leur dis « Si. » »« Ben, tu l'as pas écrit. » Ben, je dis « Mais c'est pas parce qu'elles sont handicapées que je les invite. C'est parce qu'elles ont une expertise sur tel ou tel sujet qu'elles sont intéressantes. C'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles sont intéressantes. » Voilà. Donc ça a commencé comme ça. J'en ai fait exprès. Hein. Enfin bon, voilà. Quand le président de la République à la CNH dit il faut changer le regard, c'est pas parce qu'on va faire ça que le regard va changer. Hein. C'est parce qu'il y a toute une dynamique qui est d'arriver à faire reconnaître que nous partageons tous la même humanité. Et comme le dirait Charles Gardou, qu'il n'y a pas de vie minuscule. Que on va être en capacité de le changer, ce regard. Et c'est toutes nos actions, et via ce que disait Axel Kahn tout à l'heure, la recherche appliquée, qu'on va effectivement pouvoir y parvenir.
Mais alors, c'est un petit peu déprimant, hein, même si on va éviter d'être déprimé, mais ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a quand même des freins au sommet de l'État, des freins un peu partout, qui font que malgré des recommandations assez claires, assez précises, assez simples en plus, hein, vous pourrez peut-être donner quelques exemples, mais c'est des choses qui paraissent un peu tomber du bon sens. Malgré tout ça, on a l'impression, à vous entendre, que ça va mettre beaucoup de temps, pour le moins, à se mettre en place, que ça va être compliqué de passer à la phase d'action derrière.
J'appellerai pas ça des freins. Je pense que ce n'est pas une priorité. C'est différent. Quand on mène des politiques, il faut faire des choix. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce sujet n'est pas une priorité. Sinon, on s'en rendrait compte un tout petit peu.
Bon. Ce sujet, c'est quand même 25% de nos concitoyens. Alors,
c'est ça.
Qu'est-ce qui fait que ces 25%-là, on les oublie un peu.
Alors là, du coup, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, si vous
mais
voulez.
Mais comme ça, vous pouvez poser la question à l'Élysée la semaine prochaine, alors, comme ça.
Bien sûr. Ça ne sera pas la première fois que nous les interpellerons. Mais on a l'impression que c'est un peu le mythe de Sisyphe, qu'à chaque fois, il faut recommencer, réexpliquer les mêmes choses. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, et je vois des visages dans la salle qui sont convaincus par ce que je veux dire, on ne grandit pas ensemble. Enfin, dès le départ, on nous parque. Les uns sans les autres. Comment pourrait-on faire pour ne pas être obligé de parler, parce qu'on parle sans arrêt de formation. Moi, j'adore la formation, mais il y a aussi le fait de vivre ensemble éviterait un bon nombre de formations, parce que la formation, c'est au contact. La première fois que j'ai pu déambuler avec un ami déficient visuel, j'étais super gourde, quoi. Vraiment super gourde. Et puis maintenant, ça va mieux. J'ai pas eu de formation, c'est juste la rencontre qui a fait qu'il m'a montré quelle attitude je devais avoir pour qu'on soit bien ensemble. Voilà. Donc, parmi les préconisations que nous avons faites, et une auxquelles je tiens, parce qu'elle est simplissime, et elle n'a pas été retenue, on m'en a expliqué des raisons hier. Nous avons lancé au CESE une plateforme qui s'appelle la plateforme Richesse et Différence et qui avait pour ambition de collecter les projets qui visaient effectivement à répondre à une société plus inclusive. Une des préconisations était que l'État, puisque à notre avis c'est à lui d'organiser, non pas de contribuer pour tout, mais de donner les conditions de réussite d'un tel projet, de permettre que ce projet réussisse, d'avoir cette plateforme collaborative où quelqu'un qui a une idée, plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre dans son coin, il aille regarder s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui travaille sur le sujet. Et puis après, on travaille ensemble et puis on réussit. Voilà. Donc ça, c'est, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça soit un projet démentiel et qui coûte des milliards. Ben ça, on nous a expliqué que, a priori, ça n'était pas du rôle de l'État, mais qu'il valait mieux que les citoyens s'organisent, alors tel qu'on le fait à la FIRA, hein, tout simplement, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, braves gens, engagez-vous et allez chercher l'argent du secteur privé. En clair, c'est ça. Bon, ben, bien sûr, puisque l'État a dit non, maintenant on va se remettre à penser et puis on va faire les choses ensemble. Mais ça, c'est essentiel d'arriver à opérer la synergie entre les acteurs. C'est ce que fait la FIRA et c'est ce qu'on souhaiterait pouvoir faire, mais à une échelle plus large. Il y a un autre projet dont nous avons parlé, et là, pour le coup, je pense que c'est un projet qui pourrait intéresser la FIRA. Vous savez que pour les personnes déficientes intellectuelles, l'organisation que je préside a apporté depuis de nombreuses années le facile à lire et à comprendre. Enfin, il y a plein de gens qui connaissent ici. La fondation, d'ailleurs, Crédit Coopératif, a financé avec l'association Nous Aussi, donc une association de personnes handicapées intellectuelles, a financé un guide bancaire. Ce guide bancaire, très honnêtement, il ne sert pas qu'aux personnes déficientes intellectuelles. Ce que je dis depuis plusieurs années, et j'arrive pas à me faire entendre, c'est simplement, je pense que je sais pas bien le dire, tout simplement. Hein. Il me semble que pour passer, en fait, le français facile à lire et à comprendre, c'est du français simplifié. C'est un niveau de langage qui est différent de celui que je suis en train d'utiliser tout de suite. Et je pense que une recherche pourrait être de trouver un algorithme qui permette de simplifier. On arrive bien à faire des traductions. Là, on est dans la même langue. On passe simplement d'un niveau de langue à un autre.
Et on se retrouve après un petit peu de musique sur Vivre FM.
Jusqu'à midi, Recherche et Partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage, une émission réalisée en partenariat avec la FIRA. Et on revient aujourd'hui, vous l'avez compris, sur les temps forts de la seconde rencontre FIRA, handicap, recherche et citoyenneté. La dernière partie du colloque a permis de faire découvrir concrètement des projets de recherche appliquée soutenus par la FIRA, des projets qu'on vous présente d'ailleurs tout au long de ces émissions Recherche et Partage sur Vivre FM, et vous avez déjà pu découvrir quelques-uns de ces projets, leur richesse, leur variété. Et on va revenir sur un extrait de l'intervention d'Éric Plaisance, qui est président du comité éthique et scientifique de la FIRA, et qui, lui, est revenu justement sur ces différents projets reçus par la FIRA, pas forcément tous soutenus par la FIRA, parce que la FIRA ne peut pas tous les soutenir. Mais en tout cas, Éric Plaisance, voilà, est revenu sur le nombre et la variété des projets reçu à la FIRA.
Sur ces lauréats, mot, est-ce que j'ai vu que la sélection aussi était très riche, très internationale aussi,
oui,
hein, puisque la fondation a vocation à soutenir des projets internationaux.
Oui.
Est-ce que vous voulez les présenter rapidement ou en citer un ou deux vous paraissent...
Je peux en citer, mais alors là, de tête, évidemment, j'en ai quelques-uns, mais je ne les ai pas forcément tous en tête. Le premier que l'on avait retenu, et celui-là, je l'ai bien en tête, c'est un projet qui portait justement sur la question de la prise de parole des personnes avec des difficultés psychiques. Hein. Et donc... Quelle prise en compte peut-il y avoir de la parole, hein, et comment peuvent-ils exprimer ces personnes peuvent-elles exprimer elles-mêmes leurs propres besoins? Et donc là, il y a un partenariat entre Advocacy France et puis un groupe de chercheurs, un comité scientifique. Deuxième projet, celui-là, je l'avais aussi en tête parce que il est sur l'autre volet. Hein, là, c'est un volet qui porte directement sur les personnes. Et le second que je vais citer, c'est l'autre volet, je dirais, c'est le volet des évolutions institutionnelles, au bénéfice des personnes, bien entendu. C'est un projet qui est soutenu par un groupe de Grande-Bretagne et qui s'interroge et qui pose des problèmes vraiment très importants pour la situation française. C'est comment peut-on envisager la transition entre ce qu'on a appelé traditionnellement en France des prises en charge institutionnelles. Ce mot est horrible, de prise en charge. Hein. Disons les attentions institutionnelles à l'égard des personnes. Et comment peut-on avoir à des transitions vers des modes d'attention aux personnes qui soient du côté de la vie ordinaire, ce que les Britanniques appellent plutôt le communautaire. Hein. Donc, en français, c'est difficilement traduisible de cette façon. C'est pourquoi je préfère dire dans la vie quotidienne avec, par exemple, des services d'appui, des services d'accompagnement aux personnes. Vous voyez, c'est l'autre volet, hein, qui est le volet finalement d'interrogation sur les transformations institutionnelles et qui est complémentaire au type de projet que j'ai signalé tout au début, qui porte plutôt sur les personnes elles-mêmes. Bien entendu, le deuxième aussi porte sur les personnes, mais dans une deuxième
dans une deuxième étape.
Voilà, la sélection des lauréats de 2014, elle est extrêmement variée. Hein. Il y a des projets sur le mythe de l'asexualité, une enquête sur l'impact de la stigmatisation sur l'éducation et les possibilités offertes aux enfants et aux jeunes atteints d'albinisme en Tanzanie et en Ouganda. Enfin, des choses extrêmement variées. Il y a vraiment ce souci dans la sélection des projets de répondre à tous les types de problématiques et de handicaps et de garder quelque chose d'extrêmement riche et varié.
Oui, tout à fait. Oui, oui. On a effectivement le souci de la qualité hein, des projets retenus avec les critères que nous avons signalés tout à l'heure, mais on essaie aussi de ne pas avoir quelque chose de totalement homogène. Mais finalement, ça se passe assez bien de cette façon-là. La hiérarchisation à laquelle nous aboutissons en général montre effectivement une variété de projets.
Écoutons maintenant un extrait de l'intervention de Jean-Pierre Didier, vice-président du comité éthique et scientifique, qui est intervenu, lui, lors de la rencontre sur les missions du centre ressources de la FIRA et le suivi des projets.
Je voudrais vous dire, la FIRA n'est pas bonne partout. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous ne sommes pas bons et j'aimerais vous les faire partager afin d'avoir vos suggestions, vos critiques, pour qu'on puisse faire encore mieux. Et en effet, en ce qui concerne la recherche sur le handicap a beaucoup de peine à s'implanter. Vous l'avez perçu à travers les différentes informations qui vous ont été données. Et elle a beaucoup de peine à s'implanter, notamment en face de la recherche fondamentale, classique. Et ceci vraisemblablement parce que la recherche sur le handicap est une recherche appliquée. Et que de ce fait, elle n'a peut-être pas, compte tenu de la culture actuelle, elle n'a peut-être pas le prestige ni le côté d'application conceptuelle, ni peut-être le côté médiatique suffisant que peut avoir la recherche fondamentale avec l'accroissement, la découverte de nouvelles connaissances, tant sur le plan théorique que sur le plan général. Et à partir de là, on pourrait considérer que la recherche appliquée sur le handicap, bah finalement, on peut se poser des questions, deux questions essentielles que vous posez sûrement. Mais finalement, à nous, ça sert à quoi, la recherche sur le handicap? Et si ça doit servir à quelque chose, comment peut-on se servir du produit de cette recherche? Et nous avons été sensibilisés à ces deux questions dès la création de la FIRA, par notre président, qui nous a dit « Attention, c'est une recherche appliquée dont il s'agit. » C'est-à-dire que notre problème, notre challenge, c'est de trouver des réponses aux questions qui se posent, non seulement aux personnes handicapées, mais à leur entourage, aux aidants, mais aussi à tous les acteurs de terrain, y compris aux politiques, aux décideurs. Et que vous devez être capable de produire des supports d'application qui, à terme, peut déboucher sur des retombées, à même d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, mais aussi d'améliorer leur participation en tant que citoyens, participation qu'il est normal qu'elle soit identique à celle des autres. Et alors, nanti de ces recommandations, on s'aperçoit tout de suite que les réponses à ces questions ne sont pas simples et que nous avons en effet une première difficulté. La première difficulté, ce n'est pas tellement de la diffusion qu'il s'agit des produits de la recherche. Aujourd'hui, grâce aux moyens modernes de l'information et de la communication, on peut trouver des moyens adaptés pour une diffusion large à l'ensemble des acteurs de terrain. Mais en fait, quoi diffuser? Et ça, c'est tout le problème qui est posé par un terme un peu pédant que je vous demande de me pardonner tout de suite, qui est celui d'extran. C'est un terme qui a été utilisé notamment dans le cadre de l'économie et dans le cadre du fonctionnement de l'industrie, des entreprises, où il était indispensable de savoir quel était le produit global de l'usine ou de l'entreprise correspondante. En ce qui concerne la recherche sur handicap, recherche appliquée, on doit se préoccuper bien sûr de ces extrants. Et le problème, c'est que si on en fait l'inventaire, ils sont extrêmement nombreux et très divers. Ça peut être bien sûr des publications scientifiques, et on ne peut pas en vouloir aux chercheurs de penser d'abord aux publications scientifiques, c'est leur métier. Ça peut être aussi la publication dans des revues plutôt de grand public, sinon de vulgarisation. Ça peut être aussi un produit qui va apparaître sous la forme d'outils, d'outils avec des fiches, par exemple, des questionnaires, on en a vu des exemples. Ou bien encore, ça peut être des productions vidéo, ça peut être du cinéma, ça peut être des programmes de formation, des programmes d'information, mais aussi des programmes envisagés au plan politique. Donc vous voyez, tous ces extrants sont extrêmement nombreux, et là où la FIRA a sûrement des progrès à faire, lorsque elle demande, après un appel à projet, aux responsables, porteurs de projet, de décrire ce qu'ils comptent faire avec le produit de sa recherche. Autrement dit, quelles seront les applications qu'il envisage et quels seront les modes de support qu'il va pouvoir utiliser. Eh bien, on s'aperçoit le plus souvent que c'est bien sûr à travers des publications scientifiques ou à travers la réalisation de colloques. Mais dans l'inventaire des extrants que je vous ai fait tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres solutions possibles. Et toutes ces solutions ne sont pas forcément de la compétence du chercheur. Parce que ça n'est pas son travail initial. Et peut-être alors que une des actions possibles, une des missions de la FIRA, ce serait de faire en sorte que les produits de cette recherche puissent être mis sous une forme qui corresponde à un outil immédiatement exploitable, concret, pratique, qui rend service, c'est-à-dire qui améliore la vie des personnes et qui leur permette d'assurer leur participation citoyenne. Et ça, alors c'est une appréhension toute personnelle, mais j'ai le sentiment qu'il existe un hiatus actuellement entre la production scientifique telle qu'elle nous est rapportée et ensuite celle qui est mise dans le cadre du résumé que fait le promoteur ou encore dans le cadre des commentaires que la FIRA puisse faire, car il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres possibilités d'extrants et de retombées sur lesquelles on puisse travailler. Peut-être même qu'on puisse développer de nouveaux programmes de recherche à partir de la recherche d'amont et qui aille précisément vers la réalisation de ces outils supports d'applications pratiques. Donc là, nous n'avons pas tout bon. Et j'espère qu'on s'améliorera. Mais il y a un autre domaine encore où on n'est pas tout bon, pour répondre aux deux questions que vous posez. C'est celui du langage. En effet, c'est bien beau d'avoir des résultats, d'avoir une série de produits qu'on va diffuser. Mais sous quelle forme? Car en effet, le chercheur va utiliser en fonction de son domaine un langage qui lui est propre. Il a ses propres outils. Et le langage de l'économiste n'est pas celui du spécialiste de sciences sociales, par exemple, qui n'est pas non plus celui du rééducateur ou du médecin. Et dès lors, on peut alors imaginer qu'il y a une difficulté pour mettre à disposition, c'est un véritable problème d'accessibilité aux résultats de la recherche qui se pose. Et là, je pense que Pascal Jacob ne sera pas étonné si je lui dis ça, dans la mesure où il connaît très bien ce problème en ce qui concerne, par exemple, l'accessibilité aux soins, dès lors que la personne handicapée ne peut pas utiliser le même code langagier que les autres. Eh bien, c'est un peu la même chose en ce qui concerne la recherche. On produit un certain nombre d'éléments intéressants, mais encore faut-il pouvoir les mettre à disposition. Il s'agit vraiment là d'une accessibilité, et il me semble que sur ce point, la FIRA là encore, a des choses à faire.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pendant une petite heure. Vous pourrez retrouver l'intégralité des interventions de la rencontre FIRA 2015, handicap, recherche et citoyenneté sur le site de la FIRA, en vidéo ou en audio. Ce sera au choix, en tout cas, sur fira.org. Et puis bien sûr, sur Vivre FM en version audio. Vous retrouverez également cette émission en podcast très prochainement sur vivrefm.com. Bonne journée, bon week-end à tous à l'écoute de Vivre FM. Et merci à Jason Durand qui a réalisé cette émission.